Le journal de la rédaction de Radio 1 et Tiers FM. On ouvre une page aérienne dans ce journal avec l'interview du PDG d'ATN, Michel Monvoisin, qui était notre invité hier. On vous parle ensuite de religion, de risques en montagne et de sport. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Rebonjour Valdemar.
Rebonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Alors, le PDG d'ATN, Michel Monvoisin, était notre invité hier et il est revenu en détail sur la situation de la compagnie.
Oui, Air Tahiti Nui, c'est un peu une compagnie de discours. La semaine dernière, souvenez-vous, Moëtei Brotherson parlait sur notre plateau d'un transporteur aérien qui avait besoin de réinvention à quelques heures d'un conseil d'administration qui a arrêté des comptes 2023 en déficit de 3,2 milliards. Hier, c'est donc le PDG d'ATN qui avait pris la place du président du pays sur le plateau de Radio 1 et il n'a pas nié les difficultés mais a tenu à les replacer dans leur contexte. Et ce contexte, c'est celui d'une compagnie qui a engrangé des bénéfices jusqu'en 2019 avant de subir la crise Covid et le regain de concurrence qu'il a suivi sur la ligne États-Unis-Tahiti. Avec l'augmentation des fréquences d'Air France qui s'ajoute à celle de United, de la concurrence low-cost de French Bee et plus récemment des incursions de Delta Airlines, les incursions sur le marché qui sont autorisées par le gouvernement, l'offre en siège est largement supérieure à la demande sur la ligne. C'est d'ailleurs ce qu'a pointé le récent rapport de la Chambre territoriale des comptes. Les tarifs n'ont pas pu, en raison de la concurrence, être ajustés au coût réel des opérateurs.
Il faut savoir que dans le monde, les compagnies aériennes ont passé 25% en moyenne, c'est Yata qui le dit. Dans les Outre-mer, c'est entre 30, 35, 40%. Et nous, on est à zéro. On aurait passé à peine 10%, on serait à l'équilibre. On aurait gommé les 3 milliards.
Mais ces géants, eux, peuvent se permettre de perdre de l'argent sur la ligne de Tahiti, puisqu'ils compensent avec d'autres trajets très rentables. ATN et ses 4 avions n'ont au-delà des États-Unis que de petites dessertes coûteuses mais très utiles au pays, comme le Japon et la Nouvelle-Zélande. L'autre constat, là encore partagé par la CTC, c'est celui d'un parc hôtelier déjà saturé au Fénois. Pour Michel Monvoisin, il faut trouver une solution à ce manque de places d'accueil en Polynésie pour espérer développer l'activité. Et le PDG applaudit donc les ambitions affichées par le gouvernement pour le tourisme, avec l'idée de miser sur des investisseurs asiatiques pour faire sortir de terre de nouveaux resorts rapidement. Pour lui, la priorité, ce sont les chambres, voilà ce qu'il nous a répété. Et malgré les récentes déclarations de Moëtei Brotherson qui a annoncé un changement de pilote à ATN d'ici le mois de mai, le dirigeant ne semble pas vouloir se désolidariser du gouvernement. Mais Michel Monvoisin note tout de même que dans ses volontés de changement, le président du pays ne fixe finalement pas de nouveaux caps clairs à la compagnie.
Changer de pilote, c'est son droit le plus absolu, donc moi j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, ces questions-là, c'est à lui qu'il faut les poser. Mais aujourd'hui, ce qu'attend, c'est pas moi particulièrement, ce qu'attend ATN et ce qu'attend la direction d'ATN, c'est des directives, c'est une feuille de route, c'est qu'est-ce qu'attend le gouvernement. À partir du moment où ATN aura une feuille de route, il saura la mettre en application, que ce soit moi ou un autre. Le sujet, c'est pas ma petite personne, hein. Excusez-moi.
On pourrait donc se demander si ATN ne serait finalement pas condamné à attendre que le gouvernement clarifie sa vision, que les hôtels se construisent et que les concurrents se redéploient ailleurs. Non, répond Michel Monvoisin qui dit faire le maximum. Le PDG montre notamment pour preuve les résultats de l'année dernière, notamment sur la ligne du Japon. Pas aussi catastrophique que prévu à sa reprise, avec plus de 50% de remplissage contre 30% prévu. Et il justifie ses choix par les résultats, celui de la ligne de Seattle notamment, un très bon choix d'ouverture, dit-il, et qui, une fois prolongé jusqu'à Paris, a permis de capter 16 000 touristes supplémentaires sur l'année.
Ah, on fait plus qu'encaisser. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est que nous, on est plutôt agressifs. Sur la capacité qui a été mise l'an dernier, c'est ATN qui a mis le plus d'offres en siège. Et Seattle a été une réponse qui a été payante. Parce qu'on a vu chez nos concurrents le coefficient de remplissage baisser quand nous, on a ouvert Seattle. Parce que notre réplique, elle est d'être agressif sur l'offre en siège.
Et dans cette bataille, ATN peut compter sur un atout, ses 16 milliards de francs de réserve qui lui permettent de voir venir côté cash. Assez pour ne pas avoir à demander de nouvelles aides du pays dans les prochaines années. À voir, car plus que la trésorerie, ce sont les fonds propres qui pourraient manquer l'année prochaine si ATN perdait encore 3 à 4 milliards en 2024. La question d'une restructuration de capital serait alors plus que jamais d'actualité.
On parle politique avec la session administrative de l'Assemblée.
Elle sera lancée jeudi en plénière et hier matin, la conférence des présidents a arrêté l'ordre du jour. Les élus seront invités à se prononcer sur 4 projets de texte dès la première séance. À commencer bien sûr par la nouvelle version de la loi fiscale dont on ne sait toujours pas si elle fera l'objet d'amendements en séance. Au programme aussi le projet de modification des règles d'installation des pharmacies qui doit permettre entre autres à Théano Cogent de rouvrir à Bora Bora. Mais aussi la convention d'accueil des Jeux du Pacifique 2027 qui affiche un budget de 18 millions milliards pour l'événement contre 30 prévus sous la mandature d'Edouard Fritsch. S'ajoute une modification plus technique du budget de l'Assemblée et la séance plénière du 11 avril devrait aussi être le moment pour l'opposition et peut-être même pour la majorité de donner de la voix contre un gouvernement plus productif en discours qu'en réforme. C'est en tout cas ce qu'en pensent certains élus des deux camps.
Côté énergie, on relaye ce nouvel appel à projet.
Oui, il concerne le fonds Macron, un dispositif qui a déjà permis de subventionner 8 projets en 2023. Projets sélectionnés avec le pays qui contribuent à la transition énergétique pour 1,2 milliard de francs. On peut notamment citer des centrales hybrides ou solaires. Et il reste un peu moins de 6 milliards à allouer d'ici 2026. Et le Haussaria a donc relancé l'appel à candidature. A noter que le taux de subvention dépend du type d'opération. Cela varie de 25% à 60%. La date limite de dépôt des dossiers finalisés est fixée. C'est au 31 juillet, tous les détails sur notre site.
Et on vous parle de cet appel à la vigilance.
Vigilance encore et toujours. Quelques heures après l'épisode de crue survenu à Tahiti dimanche en fin de matinée, les services de l'État avaient rappelé les règles de sécurité à suivre en montagne. Mais pour le directeur adjoint de la protection civile, Cédric Rigolet, plus qu'un rappel, c'est une prise de conscience que doit engendrer le drame de Punaruhu. Une jeune fille de 16 ans avait été emportée par la rivière montante qu'elle tentait de traverser pour rejoindre sa famille. Elle avait ensuite été retrouvée morte plusieurs centaines de mètres en aval. Alors la première consigne déjà répétée maintes et maintes fois par les autorités, c'est se renseigner sur la météo. Et ce jour-là, elle était particulièrement clémente sur le littoral et comme c'est souvent le cas ici, beaucoup plus sombre et pluvieuse sur les hauteurs. Mais pour le responsable, c'est aussi sur place qu'il faut avoir l'œil, particulièrement si les nuages s'amassent sur le centre de l'île.
Les Polynésiens le savent, que les rivières sont très très enclines à déborder dès qu'il y a des pluies, et qu'il faut être extrêmement vigilant. Et après, il faut veiller en permanence l'état de la rivière, sa couleur, son débit, sa vitesse, pour vérifier que les choses ne sont pas en train d'évoluer. Et puis, au-delà de la météo, simplement constater de visu s'il y a des nuages sur les hauteurs, si on aperçoit au loin des pluies, qui peuvent être responsables de la montée rapide de la rivière.
Et après chaque accident, les mêmes mots reviennent. La crue était soudaine, surprenante, violente même, souvent accompagnée d'un phénomène de vagues. Alors se faire surprendre peut arriver, même pour les promeneurs expérimentés. Il faut alors absolument rester sur les berges, ne pas franchir les cours d'eau, attendre que le niveau redescende. Ce même dimanche, deux randonneurs avaient d'ailleurs choisi de ne pas se risquer à une traversée et à se mettre à l'abri de la crue. C'était dans la vallée de Mahateaho à Hitia. Ils ont d'ailleurs pu être récupérés et secourus quelques heures plus tard. Un choix judicieux qui n'est malheureusement pas systématique, c'est ce que note Cédric Rigolet.
Donc je pense que les gens connaissent les consignes, mais ils sont parfois un peu trop confiants. Je pense que c'est ça, c'est une histoire de confiance peut-être, de trop connaître ou de penser connaître parce qu'on est polynésien, parce qu'on connaît bien les vallées, les rivières. Et parfois, c'est ce surcroît de confiance qui fait que les gens prennent des risques. Je pense qu'il faut continuer à faire de la pédagogie, il faut continuer à transmettre des informations. Il faut que les gens deviennent de plus en plus responsables vis-à-vis de leur propre sécurité, se mettent pas en situation de risque.
Voilà, et pour le directeur adjoint de la protection civile, les autorités, je cite, ne peuvent pas tout interdire.
Et dans les îles, un temple mormon est en projet à Raiatea.
Oui, c'est l'annonce faite hier par celui que les fidèles nomment le président Nelson. Il est le dirigeant mondial de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et c'est au terme de la première des deux conférences générales organisées chaque année, au Temple Square à Salt Lake City, que le prophète a cité Uturoa parmi les 15 villes qui verront naître un nouveau temple. Ce sera le deuxième au Fénois après celui de Titioro qui a été construit il y a 30 ans. Et le nouveau lieu devrait desservir les 14 paroisses des Raromatei, dont 6 sont situées à Raiatea même. Elle rassemble au total, selon les dirigeants locaux, 4000 membres. On écoute les précisions d'Elder Rimmer Frédéric, le responsable de l'église au Fénois, qui a récemment participé à cette conférence aux États-Unis.
Pour beaucoup, c'était une surprise. On a travaillé dessus pendant 2 ans. L'église essaie de voir où l'église grandit. Et ensuite, c'est le prophète qui décide ensuite, par révélation, où le Seigneur veut qu'on puisse établir un autre temple. C'est pour permettre justement de rapprocher le temple des membres.
Et cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'émotion par les croyants du Fénois qui seraient près de 30 000. Sur les réseaux sociaux, certains disent même avoir pleuré de joie. À l'heure actuelle, les dirigeants ont visité plusieurs terrains, mais le projet final n'a pas encore été révélé. Écoutez.
Ce sera un temple unique en son genre, bien sûr. Ce ne sera pas un grand temple comme aux États-Unis, mais déjà le temple de Tahiti, ça nous donne un peu une petite idée un peu du temple que les membres de Bora Bora et de Raiatea ou Haina Taha pourront bénéficier. On n'a pas encore c'est à l'état brut, mais voilà, ça va se faire dans les années à venir. C'est pas demain qu'on va commencer la construction.
Elder Rimmer Frédéric qui répondait à Vaikia Reperer, à qui il a précisé que le projet pourrait voir le jour d'ici 4 à 5 ans.
On parle sport maintenant, Léa Godallier était notre invitée hier.
Oui, Léa Godallier, championne de padel. Elle est en visite au Fénoua, 4 ans et demi après son retour à Tahiti, d'où elle était partie à l'âge de 2 mois pour être adoptée en métropole. Triple championne de France, mais aussi championne d'Europe, Léa Godallier va notamment donner des stages aux joueurs de Phoenix, qui comptent 5 terrains, bientôt 9, pour pratiquer cette discipline en plein boom au Fénoua. Le padel, c'est un sport que l'on peut comparer à un mélange entre le squash et le tennis, écoutez.
C'est vachement accessible en fait, c'est un sport qui plaît de suite parce qu'il y a des échanges directement, ça se joue en équipe, donc à 2 contre 2, sur un petit terrain de tennis entouré de grillages et de vitres. Et voilà. Et moi et ma famille, on a de suite accroché avec cette discipline-là, donc ça ne m'étonne pas du tout que ça fasse un énorme boom ici aussi.
Et Léa Godallier, elle est actuellement deuxième joueuse française au classement national. Et pourtant, elle n'a réellement débuté le padel qu'il y a 6 ans.
J'ai joué pendant longtemps au tennis, je dirais une quinzaine d'années. Et sur ma dernière année de tennis, j'ai découvert le padel. Je suis de suite tombée dedans. J'ai eu la chance en fait, de tomber sur un entraîneur espagnol qui était là pour ses études sur Bordeaux, où moi je faisais aussi mes études. Et Rolleré de Benito, qui m'a appris toutes les bases de paddle, et ça a été génial, ça a été un déclic, je me suis dit mais vas-y feu, il faut y aller. J'ai direct commencé par un tournoi que j'ai gagné contre des filles qui faisaient partie de l'équipe de France à cette époque-là, et c'est ce qui m'a fait un déclic. Je me suis dit bon, je me suis jamais vraiment entraînée et je bats des filles qui sont en équipe de France, donc pourquoi pas tenter l'aventure.
Voilà, Léa Godallier qui a donc fait du chemin depuis ses débuts dans la discipline. Sur les terrains, bien sûr, vous l'avez entendu, mais aussi du côté de sa vie personnelle, puisqu'elle vient d'accueillir son premier enfant il y a seulement 2 mois, ce qui ne l'empêche pas d'être déjà motivée pour faire son retour sur les plus grandes compétitions internationales. En attendant, elle est donc au Fénoua jusqu'au 18 avril pour profiter de sa famille et donc faire partager son expérience. Son programme à retrouver sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr la revue de presse d'actualité locale. Et c'est à 7h30.
Merci Valdemar, il est 7h12 sur Radio 1, voici la météo.